Nous allons prier avant de continuer. Notre Père, notre Dieu, nous prions humblement que tu, comme nous venons de chanter, tu nous parles par ta voix, qu'à travers ta parole, nous puissions voir plus clairement Christ, son caractère, ce qu'il a fait pour nous, toute sa gloire et toute sa splendeur. Au nom de Jésus. Amen. Combien d'entre vous connaissez le concept en nom de escape room? Un peu, oui. Je vois la moyenne d'âge un peu plus là-bas, bien sûr. Les plus âgés, vous connaissez Harry Houdini? Peut-être, ça vous dit quelque chose? Samuel dit, moi, je le connais. Le concept, c'est la même chose. Donc, c'est plus ou moins la même. Le mois passé, j'ai eu l'opportunité de jouer à ces sortes de jeux. Il consiste à s'enfermer dans une chambre et réussir à sortir. Il faut résoudre des énigmes, il faut résoudre des problèmes. Il faut un peu trouver une clé ici pour lier avec l'autre problème là-bas, trouver la porte et normalement dans une heure, réussir par ses propres moyens et sortir de ses chambres. C'est un peu comme Houdini faisait à l'époque, pour ceux qui vous rappelez, était enchaîné avec une chaîne pour attacher. Et après un certain temps, il réussit à tous d'enchaîner pour avoir la liberté. Et c'est gloire quand tu réussis à finir tous les énigmes, tous les problèmes. Ça devient un peu la satisfaction de dire « moi, j'ai réussi, j'ai sorti de gagner ». Si tu reçois quelques astuces de la part de ceux qui gèrent les jeux, ce n'est pas la même chose que si tu complètement réussis par toi-même à faire tout dans le temps qu'ils ont proposé. C'est vraiment satisfaisant. Et il n'y a vraiment rien de mal à chercher un peu ces sortes de satisfaction dans ces sortes de jeux. Et on passe un temps rigolo. Le problème, c'est si on transfère ces besoins de réussite et ces besoins de satisfaction au domaine de l'Évangile. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de méditer sur cette épître. Si nous essayons de faire ça, alors nous tombons dans un feu évangile. Paul écrit cette lettre pour avertir contre ces feux évangiles. Contre l'évangile de la gloire personnelle. Contre l'évangile Houdini ou contre l'évangile Escape Room. Contre l'évangile qui pense, Dieu, tu peux poser tous les énigmes, tu peux poser tous les défis que moi je veux réussir. L'évangile de je veux impressionner Dieu. Ça, c'est le feu évangile dans toutes ses formes. Et les judaïsons faisaient croire que pour être vraiment chrétien, il fallait obéir la loi et il fallait réussir tous les défis de Dieu, de la loi. Et ça, c'est le faux évangile qui cherche ma propre gloire, ma propre justification. Nous sommes aujourd'hui dans la moitié du chapitre 4 et jusqu'ici, Paul a défendu le vrai évangile et son ministère. Il a clairement exposé que la justification vient seulement par la loi. Dans le chapitre 3, et aujourd'hui, vous allez voir que nous sommes forcés à répéter un peu les mêmes concepts parce que le texte vient comme ça et nous suivons une série de prédications textuelles. Donc forcément, on va répéter quelques concepts, mais on va ajouter quelques nuances importantes. Donc dans le chapitre 3 qu'on avait considéré il y a quelques semaines, Paul a expliqué que la promesse donnée à Abraham précède à la loi. Mais cette loi ne substitue pas cette promesse. Cette loi, il a un but particulier, il y a un but temporaire dans le plan de salut. Et c'est seulement en base de la promesse originale donnée à Abraham que Dieu agit. Et c'est pour ça que Paul répète, Abraham crut et ça lui fut compté comme justice. Dans ce chapitre aux Galates, il y a beaucoup de contrastes. Il y a deux côtés vraiment opposés dans différents concepts. La loi versus la promesse dans notre lieu. La liberté versus l'esclavage. L'Esprit de Dieu versus la chair. La chair, comment disons, les désirs qui vient de notre cœur. La confiance en soi versus la confiance en Dieu. Et nous voyons, nous allons voir ces contrastes un peu plus clairement dans les chapitres 4 aujourd'hui et par la suite dans les chapitres 5 à partir de la semaine prochaine. Mais Paul met tout son effort pour convaincre les Galates qu'ils ont l'ivre. Ils ont déjà l'ivre. Ici, Paul continue ses arguments dans les versets de les chapitres 3. Mais le message ici, aujourd'hui, c'est « Vous êtes l'ivre. Ne retournez pas à l'esclavage. » Et ça, c'est le titre de ce message. C'est le message principal dont Paul veut transmettre aux Galates. « Vous êtes l'ivre. Ne retournez pas à l'esclavage. » Et Paul, ici, met sur ces versets l'accent sur la identité, sur la vraie identité des Galates. Pourquoi ? Parce que savoir qui nous sommes est fondamental pour notre vie et pour notre avenir. Connaître notre identité en Christ, nous permet de faire face à l'adversité et nous donne le courage pour accomplir notre mission de vie en tant que fils de Dieu et chrétien. Donc nous allons considérer ces passages dans trois aspects. Premièrement, être sous la loi, c'est devenir un esclave. Deuxièmement, nous sommes enfants de la promesse. Et après, nous allons considérer l'exhortation que nous trouvons dans le verset 1 du chapitre 5. Mais premièrement, être sous la loi, c'est devenir un esclave. Et vous avez remarqué comment Paul commence avec un ton assez ironique ces passages. Il dit, vous qui voulez être sous la loi, vous qui trouvez ça cool maintenant, et vous avez compris la loi, vous savez la signification de la loi? Et ça, c'est une façon de dire, vous ne comprenez rien, vous ne savez pas où vous voulez aller. Paul a dit déjà dans le chapitre 3, vous avez reçu l'esprit par la foi. Mais maintenant, les Galates commencent à glisser vers la loi sans rien comprendre. C'est semblable à ces gens qui trouvent cool d'avoir des tatouages comme de la culture chinoise, même s'il est européen ou même dans le continent américain. Ils trouvent très cool d'avoir des symboles chinois. Et ils veulent adopter ça parce que c'est cool. Mais ils ne comprennent rien de la signification des symboles qu'il y a derrière. Il y a des gens qui, même, il a voulu porter sur sa peau des concepts magnifiques comme liberté, amour. Et ils ont fini par se tatouer des mots n'importe quoi. Parce que quelqu'un a fait une blague. Mais ils ne comprenaient rien du tout. Donc les Galates voulaient s'ajouter à une mode qui était cool pour eux. Mais ils ne comprenaient rien du tout de la signification. Et c'est pour ça que c'est ce début ironique de Paul. Vous ne comprenez rien. Jusqu'ici, Paul a parlé, si vous vous souvenez bien, d'Abraham, très clairement dans les chapitres 3. Mais maintenant, Paul est en train d'utiliser une rhétorique très choquante. Et je ne vais pas cacher que ça, c'est deux textes un peu plus compliqués de cet épître. Mais Paul commence en disant qu'Abraham avait deux fils. Jusqu'ici, bien, on connaît déjà l'histoire de Genèse. On l'a médité ici à l'église il n'y a pas longtemps. Et les versets 22 et 23 servent à mode d'introduction. Mais ce qui est déjà, ce qui ajoute un peu de lumière pour l'intention de Paul, c'est que Paul commence, Abraham avait deux fils, mais il ne mentionne pas les noms. Nous savons bien sûr que c'est Ismaël et Isaac. Mais ça, ce n'est pas les points de Paul. Paul dit qu'il avait deux fils, un d'un esclave et un autre d'une femme libre. L'importance maintenant ici, c'est souligner les statuts de chaque enfant. Parce que Ismaël avait les statuts d'esclave parce que sa mère était esclave. Et de même, Isaac était libre parce que sa mère était libre. Jusqu'ici, un peu d'obviété, si vous voulez. Il y a en plus une autre grosse différence entre les deux. Pourquoi ils ont né? L'un est né par la volonté humaine. Bien sûr, quand un enfant vient au monde, il y a une certaine volonté humaine. sauf s'il arrive quelque chose, qu'on dit un accident, mais normalement, c'est planifié, il y a volonté humaine derrière. Mais ça, ce n'est pas les sons que Paul veut dire ici. Paul, rappelez-vous que Dieu avait promis la descendance à Abraham et à Sarah. Mais à certains moments, Dieu avait promis un fils, mais il en était impatient. Ils en étaient impatients, même s'il avait pas mal des années, mais d'après les timings de Dieu, ils en étaient impatients. Et ils ont compris qu'il devait apporter, il devait combler lui-même, ou que Dieu allait agir par eux pour accomplir cette promesse. C'est dans ce sens-là qu'Ismaël est né des volontés humaines. Abraham, Sarah, en utilisant Agar, ils ont voulu intervenir dans ce plan de salut, tout en agissant de la façon qu'ils comprenaient, pour dire ça ne peut pas arriver d'autre façon. Donc ça doit être cette façon ici. Mais quand l'être humain essaie de combler les promesses que Dieu a faites, les résultats sont catastrophiques. Et ça, c'est ce qu'on voit dans les Genèse, et vous connaissez bien parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on a médité, mais les conséquences étaient la jalousie entre les femmes, la jalousie entre les fils, la rivalité entre les quatre aussi, la souffrance d'Abraham aussi, qui avait encore divisé pour deux fils à lui, et la séparation définitive. C'est dans ce sens-là qu'Ismaël est né par la volonté humaine. Mais Paul dit, Isaac, par contre, il est né selon la promesse. La naissance d'Isaac était vraiment inattendue, était impossible. Était dans une situation de stérilité et de vieillesse extrême. Jusqu'au point qu'Abraham et Sarah ont ri quand Dieu leur a parlé de la promesse. C'était impossible. C'était impossible. Mais encore, ça prépare l'argument de Paul. Le plus choquant vient dans les versets 24 et 25, où Paul établit une corrélation entre ces deux femmes et les deux alliances. Agar est l'alliance de Sinaï, où la loi est donnée. Ici, on ne va pas entrer en détail. Il y a certains débats sur si ça, c'est une allégorie, à une typologie, donc il a un peu de débat. C'est les textes, les versets les plus difficiles ici, mais les sens, la signification ne change rien du tout. Donc la comparaison est valable. Agar, c'est esclave. De la même façon que Sinaï, là où la loi est donnée, produit des esclaves. Tous les fils et toute la descendance d'Agar seront esclaves parce que Agar a un statut d'esclave. Et tout ce qui est sous la loi vont être d'esclaves. Ils ne vont pas pouvoir changer son statut d'esclave par rapport au péché. Ça, c'est l'argument principal de Paul. Et Paul a dit dans le chapitre précédent, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Il a dit au contraire, l'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles. Et de la même façon qu'Agar sont des esclaves, parce qu'il est un esclave, de même les fils de l'Alliance produisent uniquement des esclaves. Et sûrement, cette affirmation était une provocation pour les Juifs. C'est un peu, quand les Juifs, les Judaisons, ils ont lu la lettre de Paul, on imagine, dit, je te demande pardon, Paul, la loi est un signe d'esclavage. Bien au contraire, la loi est un signe de libération nationale. La loi était donnée au Sinaï quand Dieu a libéré le peuple d'Égypte. De quoi tu parles, Paul? Mais Paul, certainement inspiré par l'Esprit, dit oui, la loi ne peut pas changer les statuts des esclaves par rapport au péché. L'alliance du Sinaï dépendait de l'obéissance parfaite et complète à la loi. Et personne ne pouvait ni pourra jamais être à l'auteur. Et à cause de notre faiblesse, la loi qui est bonne en soi représente une condamnation. Les êtres humains, nous ne pourrons jamais utiliser la loi comme un outil pour changer notre statut de pécheur et se justifier devant Dieu, être libre du péché. La loi est un diagnostic seulement. C'est pour dire, comme on va à un médecin, il fait des X-ray, et le médecin voit et dit, oui, l'os est cassé. Mais ça, c'est pas rien, ça ajoute rien à notre condition. La loi, dans ce sens, est un X-ray de notre corps. Donc, ça sert seulement pour dire, vous êtes cassé dedans. Mais il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui nous aide. L'alliance du Sinaï dépend de notre effort. Mais malheureusement, nous tous, nous allons échouer. La loi, dans ce sens, ne produit pas la justification. Tous les fils, symboliquement, qui produisent la loi, sont toujours des esclaves, parce que ce corps n'est pas transformé. La loi ne peut pas produire des enfants libres, des enfants de Dieu avec cet statut justifié, parce que nous ne pouvons pas être à l'auteur de la sainteté de Dieu, jamais. La loi, c'est seulement un instrument punitif. La loi punit la transgression, mais la loi ne m'aide pas à transformer mon corps pour éviter ces péchés. La loi ne m'aide pas à vouloir les mêmes choses que Dieu. La loi ne m'aide pas à synchroniser mes pensées avec sa volonté. Elle seulement est là pour punir. Et quand j'ai transgressé la loi, elle est là pour dire « t'as transgressé la loi, tu mérites la mort ». Et ça, c'est juste. Je ne pourrai, vous, nous, pourrons jamais plaire Dieu. Et on va tomber dans une spirale de culpabilité, de honte et de peur. Et encore, culpabilité, honte et peur jusqu'à la mort. Et ça, c'est l'esclavage de la loi. Par ses propres efforts, personne n'arrivera jamais à être un fils de Dieu, un vrai fils avec un corps pareil. C'est pour ça que Dieu, comme on a lu dans Ézéchiel 36, 26, « Je veux être votre père, je veux transformer votre corps. » Mais par nos propres efforts, nous jamais serons des fils avec un corps pareil à notre père. Par la loi, personne n'obtiendra l'héritage, parce que l'héritage est réservé aux fils. Mais Abraham crut, et il fut justifié par cette foi. Être sous la loi et devenir un esclave. Mais deuxièmement, et ça c'est le centre, nous sommes enfants de la promesse. Nous sommes enfants de la promesse. Et le verset 26 commence avec un « mais ». Très, très important et un « mais » clé. Mais nous sommes notre mère et Jérusalem de nom qui est libre. Mais notre mère et la Jérusalem de nom. Et ici, il y a encore un autre contraste entre la Jérusalem, les Sinaï, la loi, la Jérusalem éternelle et la Jérusalem au nom, la Jérusalem célestielle. L'une produit des esclaves, son possibilité de changer son statut, son possibilité de justification. Mais par contre, la Jérusalem de nom, elle vraiment produit des enfants de Dieu. Elle produit des enfants avec un cœur pareil à Dieu. Elle produit des enfants justifiés par la loi, avec un statut différent, selon la promesse. Nous sommes enfants de la promesse. Et ces enfants, nous, par la foi, ne sommes pas nés par la volonté humaine. Dans le même sens, ne sommes pas nés par l'effort humain pour essayer d'ajouter quelque chose et combler la promesse. Non, il n'y a pas aucune intervention humaine à ce sujet-là. C'est seulement Dieu par son action puissante. Et ce concept de Jérusalem un peu abstract, ce n'est pas Paul qui l'a inventé. Si on n'aurait plus de temps, on pourrait lire Ésaïe 66. Et là-bas, Ésaïe, inspiré par l'Esprit aussi, parle de cette Jérusalem. Et parle comme la Jérusalem parfaite qui est la mère et qui va combler les besoins et qui va consoler les enfants. Donc ce n'est pas Paul qui invente ces concepts. Mais le plus important ici, c'est que Paul prend un texte d'Ésaïe. Et ces versets ici, il dit « Nous sommes notre mère et la Jérusalem parce qu'il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas d'enfant, éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. » C'est un passage d'Ésaïe 54. Et quand Paul cite ici Ésaïe 54, on ne peut pas penser qu'il prend seulement ces versets-là. De la même façon que Jésus était sur la croix et il avait évoqué le premier verset des psaumes 22, mais tous les psaumes 22 étaient évoqués sur les pensées des gens qui écoutaient ça. De la même façon, Paul ne veut pas que nous nous concentrons seulement sur les versets 1 d'Ésaïe 54, mais il évoque tout ce qu'il écrit dans ces passages-là. Donc, je vais parcourir seulement quatre versets afin qu'on ait un peu plus de clarté de la base sur laquelle Paul veut construire cet argument. Ésaïe 54, verset 5. Il dit, en effet, ton époux, c'est lui qui t'a fait. Dieu est le créateur. Et son nom est l'Éternel, le maître de l'univers. Ésaïe 54, verset 9. Il dit, Dieu parle. Il dit, en effet, la situation est pour moi pareille à celle de Noé. J'avais juré que le déluge qui a frappé Noé ne frapperait plus la terre. De même, j'ai juré que de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'éloignent, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne sera jamais ébranlée. Dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Le verset 13 dit, tous les fils seront disciples de l'Éternel. Et leur prospérité sera grande. Tout sera affermi par la justice. Et pour finir, verset 17. Toute armée préparée contre toi sera sans effet. Et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamnera. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Et un verset seulement d'Ésaïe 56 que j'ai cité dit, en effet, Ésaïe 66, 22, en effet, les nouveaux ciels et la nouvelle terre que je veux créer subsisteront devant moi. De la même manière, votre descendance et votre nom subsisteront. Cet héritage est réservé aux fils. Mais personne ne peut devenir fils par ses propres efforts. C'est Dieu qui promet depuis le début, c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui fait tout. Et c'est seulement par la foi en Jésus que nous pouvons être adoptés et devenir, par l'action puissante et créatrice, enfants de Dieu. Remarquez aussi, j'aimerais avoir un peu plus de temps aujourd'hui, mais remarquez que chapitre 53-54 vient juste après le chapitre 53. Vous vous rappelez quel est le sujet d'Ésaïe 53? Les serviteurs de Dieu. On chante, on connaît beaucoup de versets. Ésaïe 53 est le centre, c'est la croix, résumé, c'est l'évangile dont Ésaïe. Mais c'est lui, il a été blessé à cause de notre transgression, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. L'Éternel a voulu les briser par la souffrance. Mais il verra une descendance et vivra longtemps. Donc la femme d'Ésaïe 54 peut se réjouir et peut chanter dans la joie, car Dieu même a tout fait déjà, tout dans Ésaïe 54. Et Ésaïe 53, c'est le sacrifice de Christ. C'est la base pour vous dire, vous, cette femme conceptuelle, nous tous, nous pouvons nous réjouir. Parce que c'est tout fait, c'est Dieu qui fait tout. Donc, poser notre confiance dans nos efforts, c'est aller vers un feu évangile. C'est être sous la loi. Par contre, croire, de la même façon qu'Abraham avait cru, nous rend capables de devenir enfants de Dieu, comme Isaac. Pourquoi? Parce que notre naissance, nouvelle naissance, ne vient pas de la volonté humaine, comme Sarah, Abraham et Agar, sinon par l'Esprit. Et c'est Dieu qui fait naître, qui crée quelque chose de nouveau en nous. Nous ne pouvons pas devenir enfants de Dieu, mais qui cherche vraiment Dieu et qui croit les Écritures, va vers Jésus. Et s'il croit en Jésus avec la foi en lui, son sacrifice, alors il devient enfant de Dieu. Et c'est pour ça que Jean, dans la première épître, chapitre 3, il exclate, on ressent ses émotions, on dit « Voyez quel amour le Père vous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Et si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est cette foi et cette espérance qui permet que nous soyons justifiés en Christ. Paul a voulu souligner la vraie identité des Galates. Car connaître notre identité nous aide au défi actuel et nous donne le courage pour continuer. Les versets 29 et 30 parlent aussi un peu des conséquences de l'effet de ces promesses. Il parle des versets 29 d'une persécution temporaire et en plus continue cette comparaison entre Ismaël et Isaac et de la même façon que Ismaël, en tant que représentant des gens qui ne sont pas enfants de la promesse, persécuté à Isaac, de la même façon, nous pouvons attendre une certaine persécution des gens qui ne sont pas fils de Dieu. Mais la bonne nouvelle, triste dans un côté et encourageante dans l'autre, c'est le verset 30, parce qu'il dit, il est écrit que l'esclave sera chassé dehors, les esclaves ne vont pas hériter. Et on comprend quel est l'héritage, le royaume de Dieu, être avec lui pour toujours. Les esclaves ne vont pas être là. C'est seulement réservé au Fils de Dieu. Donc, si la loi avant nous conduit vers la culpabilité, la honte et la peur, la foi en cette promesse, seulement pour l'action de Dieu, nous conduit à la joie, à la paix et à l'assurance. Et quand nous devenons enfants de Dieu, nous sommes guidés par l'Esprit. On a parlé de l'Esprit pendant la présidence aussi. Et c'est l'Esprit qui nous guide à la volonté de Dieu. C'est l'Esprit qui nous transforme et qui fait possible cette prophétie dans Ézéchiel, en Joël et dans d'autres. C'est l'Esprit qui nous rend capables de faire cette volonté et qui nous aide à être justifiés aussi. Dit Paul aussi en écrivant aux Romains et de la même façon, en suivant les mêmes enseignements, « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. C'est par Jésus que nous sommes justifiés, mais l'Esprit de Dieu fait en nous ce que la loi ne pouvait pas faire. Changer cet statut et transformer notre corps pour vouloir accomplir la loi. Jean aussi, dans le premier évangile, dans son évangile, le premier chapitre, il dit « Elle, cette lumière qui venait au monde, est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient comme Abraham en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais ils sont nés de Dieu. » Vous voyez clairement les plans de salut développés par l'histoire et comme Dieu agit afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et troisièmement, l'apôtre Paul, après avoir comparé et exposé ses arguments, il dit l'exhortation finale, « Tenez ferme dans cette liberté ». Un peu plus tard dans la série de ses prédications, nous allons voir comment utiliser cette liberté. Ça, c'est un autre sujet du chapitre 5. Mais maintenant, l'apôtre Paul dit « Restez dans cette liberté ». Le verset 1 du chapitre 5 commence en disant, il y a une petite introduction en fonction de la version que vous avez sur les yeux, c'est plus évident au moins, mais il y a une petite introduction, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Christ vous a libéré afin que vous soyez libre et vous demeurez libre. Ça, c'est l'exhortation de Paul. Tenez ferme dans cette liberté. Mais comment nous pouvons tenir ferme dans cette liberté? Deux aspects principaux émergent de ce passage. Le premier, indispensable pour tenir ferme dans cette liberté, c'est connaître l'Écriture. Ça, c'est évident dans le passage aujourd'hui. Comment Paul a commencé ces passages ? Vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez pas la loi, ne comprenez pas les Écritures, plongez sous les Écritures. Et si vous avez remarqué attentivement, il y a trois fois dont Paul écrit, il dit « il est écrit ». Et il cite les Écritures, les versets 22, les versets 27, les versets 30. Il est écrit, et il est écrit, et il est écrit. Donc, connaître les Écritures nous donne l'outil, nous équipe pour tenir dans ces libertés et réfuter toutes sortes de faux évangiles. Il y aura des attaques, bien sûr, et Paul et Tite, ils ont été attaqués même, eux-mêmes dans le chapitre 2. Mais l'Écriture nous rappelle de notre identité. Connaître l'Écriture. Mais deuxièmement, qu'est-ce qu'on doit faire pour tenir dans cette liberté? Regardez Christ. Regardez Christ et ne pas nous regarder nous-mêmes. Ça, c'est la façon de rester dans cette liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il, lui, a gagné cette liberté pour nous. C'est Dieu qui fait le pacte, c'est Dieu qui pourvoit des médiateurs, c'est Dieu qui agit. Et qu'est-ce que nous devons faire ? Croire. Croire et attendre ses promesses. La joie, la paix et l'assurance viennent seulement de regarder Christ et pas nous-mêmes. C'est en regardant Christ que nous tenons ferme dans cette liberté. Nous ne sommes plus dans la culpabilité. Si je me regarde à moi, je me sens coupable et avec de bonnes raisons. Mais ça, ce n'est pas la réalité. Ça, ce n'est pas mon identité. Christ a déjà payé. Je suis pardonné. Vous êtes pardonné en Christ. Cette culpabilité se transforme en joie. Je ne suis plus dans la honte. Vous n'êtes plus dans la honte. Nous sommes dignifiés. Ces mots existent, désolé. Oui, merci. Nous sommes dignifiés et nous sommes mon statut, ce n'est plus un esclave. C'est déjà un fils de Dieu. Je ne suis plus dans la honte. On voit ce concept ici parmi toutes les Écritures, comme la parabole du fils prodigue qui vient et qui lui donne un anneau, il lui donne des sandales, dont dignification et élève le statut. Je ne suis plus dans la honte, même si j'avais raison d'y être. Je ne suis plus dans la peur. Je ne suis plus dans la peur à la punition et à la condamnation. Parce que Christ a déjà pris les jugements. Et ça, c'est clair depuis Ésaïe 53. Il a tout fait afin que je ne doive rien faire. Il a tout fait. Il a transformé toute cette culpabilité, honte et peur en joie, paix et assurance. Je ne cherche plus ma propre gloire. Nous ne cherchons plus notre propre gloire. On ne veut pas plus jouer à Escape Room ou être Houdini avec la loi. On ne veut pas avoir cette satisfaction de Dieu. J'ai réussi tous les défis que tu as posés. Moi, je mérite quelque chose. Il ne s'agit plus de ça. On ne cherche pas la satisfaction. On regarde Christ. Et ça, c'est la façon de maintenir et tenir dans cette liberté. Et il y a toujours le risque de commencer à se regarder nous-mêmes et commencer à ressentir et à perdre la joie, à perdre cette paix et avoir un peu l'ombre de la culpabilité, de la honte. Mais l'Écriture nous rappelle, vous êtes enfant de Dieu. Si vous vraiment avez la foi, vous avez la foi en Christ, alors regardez Christ et récupérez cette foi. Et déjà, c'était un sujet dans Apocalypse, dans l'église d'Éphèse. Vous avez perdu votre premier amour. Vous avez perdu quelque chose. Répentez-vous. Élevez vos yeux. Et donnez toute la gloire à Christ qui a tout fait. Et récupérez cette joie. Et récupérez cette paix et cette assurance. Je vais laisser que la parole finisse par un texte magnifique. Incroyable, qui résume très bien toutes les pensées de l'apôtre Paul. C'est l'épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 13. Il dit « Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, Comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même en disant, « Certainement, je te comblerai des bénédictions et je te multiplierai. Je multiplierai ta descendance. » C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, il est intervenu par un serment. Ainsi, par deux actes irrévocables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés. Nous, dont le seul refuge a été de faire quelque chose? Non. Notre seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. C'est ici dont nous prenons notre identité. Et nous sommes enfants de la promesse et nous tenons livre quand nous nous rappelons nous-mêmes et l'Esprit nous rappelle cette vérité. Donc, vous êtes libre, nous sommes libres, ne retournez pas à l'esclavage. Peut-être que le risque viendra, pas du fait judaïsant, mais peut-être qu'il y a quelque autre chose qui veut éclipser ces libertés en Christ. Mais nous sommes enfants de la promesse, si vraiment on a mis notre foi en Christ. Donc, tenez ferme, connaissez les Écritures, prenez courage et prenez la vérité des Écritures. Et regardez Christ et pas vous-même, pas nous-mêmes. Amen.